Je vous prie de vous rasseoir, tout en demeurant dans cette attitude d'adoration, de louange, de recueillement. Comment te dire merci, notre Père et notre Dieu, pour nous avoir donné cette occasion plus que merveilleuse de t'exprimer nos sentiments par des chants et des cantiques, d'épancher nos cœurs en ta présence pour te contempler, pour te dire merci pour tout. Ce matin, encore une fois, notre Père, nous nous tournons vers toi. Encore une fois, ô Dieu, nous avons nos regards posés sur toi, car tu es tout pour nous. Tu es notre victoire en Jésus-Christ. Merci de, non seulement d'avoir accueilli favorablement, Seigneur, l'expression de nos sentiments, les paroles de nos bouches. Merci de nous avoir aussi de nous avoir accueillis nous-mêmes, Seigneur, nos personnes. Merci. Merci pour tout. Continue, Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence. Continue cette œuvre de régénération, cette œuvre de restauration. Change nos cœurs, ô Dieu. Débarrasse-les de toute forme d'incrédulité. Change nos cœurs, libère-nous de toute souillure. Seigneur, de l'esprit comme de la chair. Aide-nous, ô Dieu, à mener une vie qui n'attriste pas ton esprit. Une vie qui est en phase avec ta volonté pour nos vies, une vie qui est radieuse, Seigneur, par toi, par ton esprit, une vie lumineuse, brillante, Seigneur, mais aussi une vie incandescente. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Nous voulons, après t'avoir parlé, après avoir fait monter vers toi, Seigneur, notre louange, notre adoration, nous voulons maintenant nous taire et te tendre une oreille plus qu'attentive, Seigneur, afin de recevoir ta parole. Parle-nous ce matin, fais-nous du bien dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps, car tu es le Dieu qui se soucie non seulement du spirituel de notre vie, mais également de tout ce qui tourne autour de notre existence, que ce soit sur le plan physique, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, le domaine professionnel, familial, conjugal, Seigneur, oui, professionnel, tu te soucies de tout cela. Et nous bénissons ton nom pour tout, Seigneur. Merci de nous parler, merci de nous faire du bien par ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux de louange et d'adoration. Nous sommes donc le 1er mai, un peu partout à travers le monde, c'est la fête du travail. Les gens se réjouissent, il y a des défilés qui sont organisés ça et là. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout cela, et donc pour ce premier dimanche. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer un thème, à savoir une vie de gloire en gloire. Nous allons essayer de voir à quel genre de vie le Seigneur nous destine. Il est toujours important de développer tout au long de sa marche avec Dieu une vision correcte, une vision adéquate, une vision claire, mes amis, du plan de Dieu pour nos vies, ce que Dieu attend de chacun de nous, quels sont les objectifs qu'il poursuit lorsqu'il permet que tel ou tel autre événement surgissent dans notre existence, lorsqu'il permet que telle ou telle autre pression, eh bien, nous mette comme au pied du mur, que poursuit-il? Eh bien, de manière tout à fait résumée, eh bien, ce qu'il veut, c'est que notre vie aille de gloire en gloire. Et nous verrons comment. Une vie de gloire en gloire. Nous allons faire deux lectures, une première tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 48, versets 11 à 12, et ensuite, nous lirons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous allons donc aller à l'encontre de cette prophétie qui avait été faite sur Moab par le prophète de Dieu, à savoir Jérémie, verset 11. La Bible nous dit que Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre ou d'un vase dans un autre et n'est pas allé en déportation. Aussi, voilà la conséquence, son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici que le jour vienne, oracle de l'Éternel ou du Seigneur, jour où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses récipients ou ses vases, ils feront éclater ses outres. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Ou une autre version dit, ça dit la même chose, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et bien le résultat, c'est que nous sommes transformés en la même image, en l'image du Seigneur, et ce, de gloire en gloire, et tout cela par le Saint-Esprit. Amen. » Gloire au Seigneur. C'est donc le premier épisode aujourd'hui. On va essayer de planter le décor et puis ensuite nous verrons comment, d'abord après avoir réalisé ce qu'est une vie qui est appelée à aller de gloire en gloire et. Amen. Et comment nous pouvons aller de gloire en gloire. Comme vous pouvez le réaliser d'emblée, ce thème m'a donc été inspiré par cette déclaration de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 où il déclare que nous tous qui le visage dévoilé contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, eh bien nous sommes transformés, nous sommes transfigurés, nous sommes métamorphosés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit, gloire au Dieu, transformé en la même image, c'est-à-dire en l'image du Seigneur, non pas par nos propres efforts, mais plutôt par l'action puissante, par l'action vivifiante du Saint-Esprit, et ce, de gloire en gloire. C'est donc, comme nous le verrons, une transformation, une métamorphose qui croit crescendo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une vie de gloire en gloire. Mes amis, il est toujours important et même vital, indispensable, de savoir, de connaître à quel genre de vie le Seigneur nous destine. Car dans la plupart des cas, dans notre marche avec Dieu, pour diverses raisons, il nous arrive à développer une vision de la vie, du moins dans sa finalité, qui n'a rien à voir avec la vision avec le projet de Dieu pour notre vie. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui courent après mille et une choses. Tout en étant avec le Seigneur, eh bien, ils courent après mille et une choses, toujours à la recherche de quelque chose qui, dans la plupart des cas, n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Nous devons savoir, frères et sœurs, que l'idéal de la vie chrétienne, le but suprême de notre marche avec Dieu, le but ultime que le Seigneur poursuit dans notre vie, eh bien, c'est de nous faire ressembler à Jésus-Christ qui reste et demeure le modèle parfait pour chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 8, verset 29, « Car ce que Dieu a connu, les hommes et les femmes qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, mes amis, à être à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, etc. Vous voyez, mes amis, le but, c'est de nous amener à ressembler au Seigneur. Le but, c'est que Christ soit entièrement formé en nous, que tout au long de notre marche, nous reflétions le caractère sacré de la vie du Christ. Nous manifestions les attributs moraux de celui qui a donné sa propre vie à la croix pour chacun de nous. Donc, une vie de gloire en gloire est une vie qui connaît une progression normale. C'est donc une vie qui va crescendo, qui monte, et non pas qui descend. Nous partons toujours d'un point quelconque, du point alpha, et nous tendons vers le point oméga. Alléluia. Et c'est comme ça que notre vie devrait être. Et par conséquent, il n'y a pas de point mort dans cette marche. Il n'y a pas de statu quo dans cette marche. C'est donc une vie qui nous amène à aller de victoire en victoire, d'éclat en éclat, de splendeur en splendeur, de majesté en majesté, de sainteté en sainteté, et gloire à Dieu, alléluia. La vie en Christ n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique, mais qui doit toujours tendre vers le point oméga, tendre vers le haut. Une vie de plus en plus embrasée par le feu de l'Esprit, illuminée, mes amis, et par la lumière du Christ. Une vie qui va de l'étincelle de l'Esprit au brasier du Saint-Esprit. Une vie de gloire en gloire, eh bien c'est une vie qui va de croissance en croissance, qui monte et monte encore vers les sommets divins. Alléluia. Bref, quand on parle de cette vie de gloire en gloire, nous devons savoir que c'est une vie de plus en plus incandescente, une vie qui rayonne, qui brille davantage de la lumière du Christ, qui brûle de plus en plus du feu du Saint-Esprit et de la flamme de l'Esprit, gloire à Dieu. Et tout cela, mes amis, dans un monde qui est de plus en plus plongé dans l'obscurité des ténèbres, qui est de plus en plus sous l'emprise, sous la manipulation des puissances des ténèbres. Et dans un monde pareil, asservi, vampirisé par le diable, nous avons de demeurer dans une vie qui monte et monte encore, dans une vie dont la trajectoire est toujours croissante, et cela est possible. Alléluia. Parce que notre Dieu reste le même de toute éternité. Dieu est. Il est dynamique. Ce n'est pas une statuette. Vous voyez pourquoi il est strictement interdit dans la parole de Dieu de représenter Dieu par des images figées dans l'espace et dans le temps, de représenter Dieu par des statuettes en bois ou en pierre. On ne peut pas représenter Dieu, mes amis, parce que Dieu est. Alléluia. Il est, c'est tout. Il vit, il règne au siècle de siècles. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Alors essayez de le représenter dans l'espace et dans le temps. Mes amis, c'est l'offenser, c'est le profaner, mes amis. C'est l'attrister. On ne peut pas représenter Dieu. Oui, dans un monde en proie aux forces du mal, dans un monde instable, dans un monde de plus en plus fragilisé par la présence, mes amis, croissante des sortes des ténèbres, nous avons besoin de mener une vie qui va de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est cela la vie normale, mes amis, aux yeux du Seigneur. Une vie qui ne connaît pas de statu quo ou qui ne regresse pas, qui ne connaît pas, comme je l'ai souligné, de temps mort. La vie chrétienne véritable n'est pas une vie figée. En d'autres mots, on ne peut pas être aujourd'hui ce qu'on a été il y a 5 ans quand on venait de rencontrer le Seigneur. On ne peut pas être aujourd'hui le même, mes amis, après avoir rencontré le Seigneur Jésus il y a 10 ans. Il faut que nous soyons aujourd'hui meilleurs par rapport à ce que nous étions hier. Il faut que demain nous croissions davantage. Et nous allons voir quels sont les moyens que le Seigneur va utiliser pour nous faire grandir. Arrêtez d'avoir ou de développer une vision strictement matérialiste de la vie chrétienne. Beaucoup d'hommes et de femmes parlent d'élévation. On pense que l'élévation, c'est seulement connaître une certaine promotion sociale, avoir plus de responsabilités politiques, être dans une entreprise, etc. J'aimerais vous dire que certains qui pensent qu'ils ont été élevés, en réalité, sont dans une vallée mortifère. Car dans la plupart des cas, on a monnayé sa nomination, on a donné sa femme, malheureusement, on a donné de l'argent, et après on vient à l'église, « Oh, j'ai béni Dieu qui m'a élevé. » Ce n'est pas Dieu qui t'a élevé, c'est maman qui t'a élevé. Alléluia. Parce que tu as utilisé l'argent, parce que tu as utilisé l'influence, parce que tu as fait jouer la fibre ethnique, et puis tu te retrouves à ce poste-là. Avec Dieu, on ne force pas, même si aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne se trompe pas dans l'accomplissement de ses projets pour nos vies. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit toujours dans Romains 8, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Arrêtons de nous agiter. » Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Et souvent, il nous laisse longtemps dans la vallée, car il sait que c'est dans la vallée où il peut mieux nous enseigner. Il nous laisse dans le désert, parce qu'il sait que dans le désert, nous n'avons pas d'autre choix que de pleurer devant lui. Voyez-vous, dans le désert, on ne sait pas où aller, on n'a pas de boussole. C'est lui qui est notre boussole. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons rencontrer une oasis, un puits où nous pourrions nous désaltérer. Il n'y a que lui qui sait. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons manger, mais lui est capable de nous envoyer la manne. Quand? Mais c'est lui qui fixe le temps. Donc la vie, la marche avec le Seigneur n'est pas une vie qui stagne, mais plutôt qui va de progrès en progrès. Alléluia. En d'autres mots, notre vie doit connaître une trajectoire montante qui nous amène à ressembler davantage à Jésus. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de ressembler au Christ. Il n'y a pas de plus grand bonheur, mes amis, que de mener une vie qui réjouit le Seigneur, d'être la bonne odeur du Christ parmi les perdus, mais également parmi les sauvés. Oui, une vie de gloire en gloire. Quid alors de cette vie de gloire en gloire? Qu'en est-il de cette vie? Eh bien, une vie de gloire en gloire. D'abord, cette expression nous montre qu'il y a un mouvement, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de dynamique qui nous amène d'un point A vers le point Z, qui part d'un point alpha vers le point oméga. Et donc, cela montre que une vie de gloire en gloire est une vie qui est active. Je dis bien qui est active au figuré comme au propre. Une vie qui déploie de l'énergie, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alléluia. C'est important, je vais le souligner. Car vous et moi, mes amis, nous ne pouvons pas marcher véritablement avec Dieu. Nous ne pouvons le servir, nous ne pouvons pas le servir comme il faut si nous ne sommes pas en bonne santé, oui ou non? Oui ou non? Donc vous voyez, mes amis, que le physique est aussi concerné par cette vie de gloire en gloire. Il n'y a pas que l'aspect spirituel, car dans la plupart des cas, lorsqu'il est question d'une vie qui plaît au Seigneur, eh bien, on a une approche un peu dichotomique qui consiste à séparer le physique du spirituel. Non, pas du tout. Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes à la fois esprit, âme et corps. Et les trois composantes, eh bien, s'influencent mutuellement. Lorsque le physique est malade, vous verrez que le spirituel aussi aura de la peine à s'épanouir. Donc, quand nous parlons d'une vie active, c'est-à-dire une vie marquée par cette dynamique de la gloire en gloire, eh bien, nous parlons également de la vie de l'homme sur le plan physique, et aussi et surtout sur le plan spirituel. Commençons avec le plan physique. Encore une fois, une vie de gloire en gloire est une vie active. Voyez-vous, donc Dieu ne nous laisse pas assis comme ça, tranquillement, nous attendons son retour, nous prions de temps à autre. Non, une vie de gloire en gloire, c'est une vie active. Et parler d'activité, c'est donc déployer de l'énergie. Notez bien ce mot, déployer de l'énergie. Alors, commençons avec sur le plan physique. Je l'ai déjà souligné, je me permets de vous le rappeler encore aujourd'hui, l'être humain, je dis bien l'être humain, est bâti autour du mouvement. L'être humain est fait pour bouger. Cela est important. Il est appelé à bouger. Il est appelé à être actif physiquement, car nous connaissons tous les effets nocifs de l'immobilisme, de l'inaction, de la sédentarité. Le fait de ne pas bouger, mes amis, ouvre la porte à toutes sortes de maladies. On entend souvent les gens dire, « Seigneur, donne-moi la bonne santé. » Oui, c'est très bien, mais entre-temps, on ne bouge pas. Non, Dieu veut que nous soyons actifs sur le plan physique. Bouger fait partie du plan de Dieu, car il a créé l'homme pour bouger. Déjà dans le jardin d'Éden, avant même que le péché intervienne, Adam était actif. Alléluia. Adam était dans une nature qui était dynamique, il y avait des animaux, il y avait de tout. Celui qui devait prendre soin du jardin d'Éden, être actif. Car quand on verse, quand on sombre dans l'immobilisme, dans la sédentarité, dans l'inaction, eh bien, il y a des effets, hélas, terribles. Qu'est-ce qui arrive? On gagne du poids. On perd de l'énergie. Pour monter les marches ici, deux marches, on est tout de suite essoufflé. On est beaucoup moins en forme. Et tout ceci augmente, mes amis, le risque de bon nombre de maladies comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme les complications cardiovasculaires. Avec le Covid, et ça c'est, vous le savez tous mes amis, les gens avec des comorbidités ont été les plus exposés, les plus vulnérables à ces virus. C'est-à-dire les gens qui souffrent encore, de diabète, d'hypertension, de cholestérol, beaucoup de graisse, parce qu'on ne bouge pas, on mange, on accumule, et résultat, on devient obèse. Et dans le même temps, Seigneur, donne-moi la force. Mais on passe tout son temps devant son téléviseur. Quand on revient au soir, et comme nous aimons beaucoup la politique, on commence à chercher les chaînes où il y a des débats politiques. Voilà. Et puis on reste. Voilà. Pour manger, chérie, viens manger. Non, amène-moi ça ici. On est resté tout le temps au bureau sans bouger. Et quand on est sorti du bureau, on a pris l'ascenseur. Et puis, on est allé prendre le véhicule. Et encore là, on vous a ouvert la portière. Vous êtes assis. On a démarré. On vous dépose à la maison, juste devant la porte. Quand vous sortez, vous entrez. Et puis c'est fini. Vous prenez peut-être vos douches, je ne sais pas. Et puis après, vous asseyez, c'est fini. Un jour, une semaine, un mois, deux mois, vous mangez, mais vous ne brûlez pas. En même temps, Seigneur, je me sens de plus en plus fatigué. Donne-moi la force. Nous avons l'énergie dans la mesure où nous dépensons l'énergie. Oh, alléluia. Ne pensez pas qu'en conservant l'énergie, vous en gagnerez. Non. Ça va vous affaiblir. Ça va, hélas, contribuer à toutes sortes de maladies. Mes amis, le Seigneur rétribue le travail, récompense le déploiement d'énergie. C'est un principe universel. Lorsque quelqu'un, qu'il soit chrétien, païen ou quoi, prend la résolution de commencer à bouger, d'être actif, d'investir dans quelques appareils, le tapis, le vélo, tout ça à la maison, eh bien, il est en train d'appliquer un principe divin. Car Dieu veut que nous soyons actifs. Nous ne pouvons pas avoir des problèmes sur le plan physique et nous attendre à nous épanouir comme il faut pleinement sur le plan spirituel. Il faut bouger. Prenez le cas, par exemple, des astronautes qui vont dans l'espace. Vous savez que tout autour de la Terre, il y a cette fameuse station spatiale internationale où des pays, des scientifiques des différents pays travaillent. On les envoie là-bas, ils restent 2 mois, 3 mois. Il y en a qui ont fait plus de 6 mois. Et puis, on va les rechercher tout ça. Eh bien, plus les astronautes restent plus longtemps en apesanteur, c'est-à-dire plus ils ne sont pas soumis à l'apesanteur, à cette force qui nous attire vers le bas, quand je saute, hop, cette force m'attire vers le bas, eh bien, plus ils restent dans cet état d'apesanteur longtemps, plus ils s'affaiblissent. Plus leurs muscles, mes amis, s'atrophient, diminuent en volume, plus leurs os, les os, se fragilisent. Leur système immunitaire devient moins résistant. Alors, pour pallier ce problème, pour remédier à cela, eh bien, là à bord, si vous avez déjà vu ces images, eh bien, ils font régulièrement des activités physiques. Ils courent là à bord parce que, eh bien, l'homme n'est pas fait pour vivre dans cet état d'apesanteur, dans cet état où on n'est pas soumis à cette force qui nous attire vers le bas. Voyez-vous. Donc, ils doivent tout faire. Autrement, eh bien, les muscles s'atrophient, les muscles diminuent en puissance, en volume, le système immunitaire lui-même en pâtit, les os se fragilisent, et après, il suffit qu'un petit virus, une bactérie passe par là, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, vous voyez, mes amis, l'homme est fait pour être actif, alléluia. Prenez la résolution de bouger. Vous demandez au Seigneur, donne-moi la force en même temps, vous-même, eh bien, vous menez une vie de sédentarité, vous ne bougez pas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous confrontons à ce problème du siècle, l'obésité. Autrefois, il y avait le nomadisme. Voyez-vous, c'était la vie nomade, les gens marchaient. Voyez-vous, ils allaient de village en village, de ville en ville, ils étaient actifs, ils allaient au champ, il n'y avait pas de problème d'obésité. La malbouffe entre-temps, hélas, s'est passée par là. L'immobilisme, à cause de toutes les facilités que nous avons aujourd'hui, est passé par là. Et résultat, eh ben, le genre développe toutes sortes de problèmes de santé. Mes amis, pour se développer, ce corps, notre corps, a besoin d'être confronté à la résistance. D'où la nécessité d'une activité physique régulière. C'est aussi dans le plan de Dieu pour nos vies. Vous m'écoutez? Oui. Vous pouvez rester, même jeûné chez vous, pendant 40 jours. Vous mangez, vous ne brûlez pas, eh bien, vous vous exposerez à toutes sortes de dangers. Une activité physique régulière, car c'est seulement en déployant de l'énergie que nous en gagnerons davantage. Oh, alléluia. En déployant de l'énergie, que nous allons en gagner davantage. En prenant la résolution de marcher dans le quartier. Voyez-vous, évidemment, en prenant toutes les précautions pour ne pas tomber entre les mains de tous ces petits voyous, ces bandits qui sévissent un peu dans nos quartiers, dans nos idées. Mais vous pouvez trouver un moyen de pouvoir marcher, tout ça. Donc, ça va contribuer à votre bonne santé. Ne dit-on pas qu'un esprit sain dans un corps, voyez-vous, c'est sain, S-A-I-N, il n'y a pas de T. Donc, être actif, voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Il y a tant de choses à faire à l'Église. Impliquez-vous dans tel ou tel autre département. C'est aussi une occasion de bouger. Quand vous venez à la réunion des mamans, vous marchez, non? Vous venez, vous descendez même de votre véhicule, vous êtes là, et puis vous... Eh bien, profitez de chaque occasion pour pouvoir brûler les calories, pour pouvoir bouger. Chez moi, à la maison, mon épouse est là, elle peut le confirmer. D'ailleurs, la dame qui travaille avec nous, au début, elle ne comprenait pas, même le papa qui travaille avec nous à la maison, il dit, mais papa, pourquoi vous faites ça? Je dis, non, j'aime bien. Après avoir mangé, c'est moi qui débarrasse. Elle est là? Le papa. Ouais, elle est là. Pourquoi? Ça me permet de bouger. Voilà. On a mis à table pour moi. Je mange. Eh bien, je ne reste pas là pour qu'on débarrasse. Non, je me lève. Au début, il dit, non, non, papa. J'ai dit, non, non, laisse, moi-même, je vais le faire. Elle était un peu, dit, mais ça, c'est quel type de papa, ça? Non. Je prends une, deux assiettes, je pars. Je dépose, je reviens. Je peux faire 5 ou 6 tours. Parce que je dois bouger. Parce que bouger est dans le plan de Dieu. Parce que bouger, c'est dépenser de l'énergie. Et plus on dépense de l'énergie, plus on en gagne. Oh, alléluia. Marcher, avoir une activité régulière, c'est dans le plan de Dieu. Car on a réduit le spirituel à seulement la prière et au jeûne. Quand on parle de l'homme spirituel, c'est celui qui jeûne. Il va s'enfermer. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Et certains, plus tard, ont développé toutes sortes de problèmes de santé. Frère, prie pour moi. Non. Dieu ne nous destine pas à une vie d'ermite. Au début, personnellement, j'avais cette conception. À la jeunesse, je me souviens, il y avait eu un couple américain qui était venu, Andrea et Derek, je crois. Et puis, il y avait un autre qui était venu, j'ai encore oublié son nom, ben, ils avaient l'habitude, ils déposaient le véhicule ici, ils marchaient jusqu'à Sangomalam à l'époque, c'était un institut international d'évangélisation. Ouais, voyez. Alors une fois, le pasteur Veillé et moi, on les a croisés, on dit, mais ça c'est la chair ça. Voilà. Nous, c'était la prière. Voilà. Donc, on était la méditation de la parole. C'est ce qui est spirituel. Elle a dit, mais comment? Franchement, pour moi, je dis, mais comment? Hein, évidemment, j'étais encore jeune et tout ça. Hein, et le mariage n'était pas encore passé par là. Mais ils avaient compris. Et là, à Sangomalam, à l'époque, il y avait une salle de fitness. Donc, d'ici, ils allaient à la salle de fitness. Et au même moment, le pasteur Vernon nous avait envoyé pour une formation en évangélisation. Nous devions étudier une méthode d'évangélisation qu'on appelle la méthode de James Kennedy. Voyez, nous logeons sur place, chacun dans sa chambre. Et la salle de fitness était là. Pourquoi y aller? Tôt le matin, c'était bien. Et puis on allait au cours. Mais eux, ils venaient, évidemment, ils avaient déjà prié, ils étaient aussi spirituels que nous. On les voyait là dans la salle de fitness. Nous, on pensait, on dit, mais c'est pas possible, ces Américains sont distraits. Vous voyez, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous soyons actifs, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Je commence par le physique. Parce que, eh bien, ce qui est valable pour le physique ou sur le plan physique, l'est aussi sur le plan spirituel. Alors, qu'en est-il du plan spirituel? Eh bien, ce principe d'être actif s'applique aussi à notre vie spirituelle. Mes amis, 1% d'action vaut mieux que 100% de bonnes intentions. Vous savez ça? Eh oui, d'ailleurs, je crois que c'est André Malraux qui avait dit que les pensées, les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être exécutées. C'est-à-dire, pour être mises en pratique. Voilà. Les bonnes intentions, ça va, mais après, nous allons faire ceci, ok, gloire à Dieu, et puis on reste. Non, 1% d'action vaut mieux que toutes ces bonnes intentions qui mènent les gens nulle part. Jésus a dit dans Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses ou cela, vous êtes heureux. » Regardez la suite. « pourvu que vous les mettiez en
pratique.
Il n'a pas dit, si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous connaissiez ces choses, ou pourvu que vous les entendiez. Il faut les mettre en... Et parler de la mise en pratique, c'est parler du fait d'être actif. Oh, alléluia. La Bible nous dit, il faut visiter les gens dans leurs besoins, dans leurs préoccupations, dans des... Eh bien, on part. On va, on répond. Aller évangéliser, on sort pour aller parler aux gens, etc. Et pendant qu'on le fait, on dépense de l'énergie. Aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Et c'est seulement ce prix-là, mes amis, qu'on peut en gagner davantage. Mon frère, ma sœur, si vous êtes inactif, le mieux que vous ayez à faire consiste à dépenser votre énergie en faisant quelque chose. Voyez-vous, je sais qu'il y a des gens qui ont une mobilité très réduite, très restreinte, de par tel ou tel autre handicap, telle ou telle autre maladie. Voilà, moi je ne parle pas de ça. Mais si vous pouvez être actif sur le plan physique, eh bien, soyez sans actif. Si vous, sur le plan spirituel également, il y a tant de choses à faire à l'église. Regardez, le temple. Nous sommes en train de préparer le démarrage de la construction de notre nouveau bâtiment. J'ai été agréablement surpris par le hangar, la manière dont les travaux sont allés très vite. Je remercie Papa Banz à Roger, donc, et son entreprise. Mais vous pouvez vous rendre utile. Quelquefois, il n'y a rien à faire, on cherche les gens. Venez, que vous soyez ingénieur, que vous soyez DG, ça va vous faire du bien. Venez, mettez votre jean, retroussez les manches, prenez la brouette, commencez à transporter. Vous allez brûler, ça va vous faire du bien. Voyez-vous, ça va vous faire du bien. Il y a tant de choses à faire. Voyez-vous, au boulot, c'est la même chose. Voyez-vous, une fois, je suis allé rejoindre mon épouse, il y a quelques années d'ici, c'était au restaurant chinois qui est au-dessus de l'INSS, là. L'ascenseur était en panne, je ne sais pas c'est quand... Quel est le niveau où se trouve le restaurant? En tout cas, c'est pas la porte à côté. Hein. Je suis arrivé, l'ascenseur ne fonctionnait pas. Mais j'ai dit, gloire à Dieu. Eh bien, j'ai pris les escaliers. Quand je suis arrivé là, certes j'ai transpiré, mais j'étais content. La dopamine, l'adrénaline a fait le reste. J'ai transpiré, j'étais très content. Mes muscles ont brûlé, et eh bien, c'est seulement à ce prix-là qu'on peut brûler, qu'on peut déployer de l'énergie et en même temps en gagner. La parole de Dieu met sans cesse à l'honneur, mes amis, le pouvoir de l'action. Nous avons tendance à rester inactifs, à laisser les autres tout faire pour nous, surtout ici chez nous, où avec un peu de moyens, on peut avoir toute une pléthore de serviteurs, même de gens qui sont là simplement pour vous mettre les chaussures. Ah voilà, vous vous asseyez, vous étendez, dites, voilà, les chaussettes sont là. Entre-temps, vous consultez les smartphones. Ok, amène-moi les chaussures. Voilà. On peut facilement sombrer dans l'immobilisme. Et cela finira par entraîner toutes sortes de problèmes. Apprenez à brûler, à dépenser de l'énergie. Vous verrez que vous gagnerez beaucoup. Vous serez en forme. Vous ne serez pas essoufflé. Vous aurez la force de bouger, quel que soit l'âge. Être actif. Oui, la parole de Dieu met à l'honneur, et ce de manière récurrente à travers toute la Bible, le pouvoir de l'action. Regardez le premier verset de la Bible et le premier chapitre de la Bible. Genèse 1:1. Que nous dit ce passage? Au commencement, Dieu créa. Nous voyons que le point de départ a eu lieu lorsque Dieu a fait quelque chose, oui ou non? Ah! Il n'est pas dit au commencement, Dieu envisagea. Non, au commencement, Dieu fit quelque chose. En commencement, Dieu créa,
faire.
Tout commence avec l'action.
Voyez-vous,
faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verbe? Faire, c'est agir, n'est-ce pas? Et agir, c'est dépenser de l'énergie. Et pour nous, ce n'est pas toujours plaisant et agréable de pouvoir soumettre ce corps à toutes sortes de résistances. Voyez, de pouvoir s'imposer une certaine discipline pour avoir un peu de temps consacré aux activités de l'Église. Mais il n'y a pas d'autre moyen, mes amis, c'est le seul moyen d'avoir plus d'ardeur sur le plan physique et sur le plan spirituel. Gloire à Dieu. Alors la question, très rapidement, comment gagner en force, car c'est ça, ou en d'autres mots, comment déployer davantage d'énergie, puisqu'il est question d'être actif, et quand on est actif, eh bien, on déploie de l'énergie. Comment déployer cette énergie afin d'être fort, afin d'acquérir de l'ardeur, de la force sur tout le plan, et en particulier sur le plan spirituel. Eh bien, dans la vie, la seule manière de croître, la seule manière de grandir, la seule manière d'être fort est de se heurter à la résistance, aux épreuves, aux problèmes. Rencontrer l'opposition, voyez-vous. Si vous décidez aujourd'hui de développer un peu vos biceps en prenant de petits poids de 5 kilos, ou même 2 kilos, vous prenez 20 fois par jour. Eh bien, au bout de 6 mois, il n'y a rien qui se passerait. Peut-être que vos muscles gagneraient en expressivité, mais vous ne verrez pas vos biceps se gonfler. Hein? Mais si vous voulez que ce corps soit bien sculpté, il faut le soumettre à la résistance. Il faut le soumettre, mes amis, à l'épreuve. Au lieu de prendre de poids de 5, vous prenez 20 et vous allez voir. À un moment, c'est difficile à soulever, n'est-ce pas? Eh bien, c'est seulement de cette manière que votre corps va se développer. Plus il y aura de résistance, plus il y aura de l'opposition, plus votre corps sera éprouvé, plus il gagnerait. C'est comme ça que vous voyez, quand un boxeur doit défendre son titre ou remporter un titre, il se met à beaucoup travailler. Voilà. Il se réveille tôt le matin, il va courir, il va faire des exercices. Quelque part, eh bien, on pourrait croire qu'il se fragilise parce qu'il travaille beaucoup. Non, c'est seulement à ce prix-là qu'il va avoir plus d'énergie, que tout son corps va être préparé à cette épreuve. Donc, nous devons accepter la résistance, l'opposition, les épreuves. On ne peut pas croître dans la vie si on ne rencontre pas les épreuves. Mettez-vous bien cela en tête. Les difficultés auxquelles vous êtes soumis aujourd'hui, l'opposition que vous rencontrez, la résistance sur tout le plan. Vous dites, c'est pas possible, c'est mon droit. Cette route, eh bien, je suis sur cette route depuis. Comment expliquer que depuis quelque temps, je n'avance pas? J'ai l'impression d'avoir devant moi une montagne que je ne peux pas escalader. Eh bien, tout cela est bon, mes amis. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a écrit au chapitre 1er, versets 2 à 3, que dit-il? Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète, non pas comme un sujet de murmure. Mémorisez bien ces versets. Hein. Considérez comme un sujet de joie complète, quoi? Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Et le verset suivant, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience ou la persévérance, parce qu'en grec c'est le même terme, patience ou persévérance. Voyez, considérez comme un sujet de joie complète. Le fait, mes amis, d'être exposé à des épreuves, Le fait de rencontrer des problèmes, le fait de rencontrer l'opposition, la Bible nous dit, plutôt que de murmurer, plutôt que de s'apitoyer, plutôt que de pleurer, la Bible nous dit de considérer cela comme un sujet de joie. Pourquoi? Eh bien, parce que ces épreuves vont contribuer à notre croissance. Alléluia. Alléluia. Ces épreuves, même sur le plan physique. Parce que lorsque vous retrouvez du jour au lendemain, suspendu alors que vous n'avez rien fait, et que vous devez aller justifier votre cause au ministère, je ne sais pas quel ministère, ça va vous demander beaucoup de temps, oui ou non? Et quand vous arrivez là-bas, vous dites non, c'est dans tel bureau, vous descendez avec votre dossier, vous marchez, et puis vous revenez, on vous dit non, c'est pas ici. Eh bien, tout cela, et puis vous dites, mais pourquoi? Dieu sait. Notre foi doit être éprouvée. Elle doit grandir. Tout notre être spirituel a besoin de croître, mes amis. C'est de cette manière que nous allons aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Bien de gens, très rapidement, comme je disais aujourd'hui, on ne prend que le décor, bien des gens, beaucoup d'hommes et des femmes ont des objectifs ou des rêves. C'est vrai, il faut en avoir. Ne soyez pas comme des gens qui n'ont qu'un rêve pour leur vie, aucun objectif. Qui avancent dans la vie, vaille que vaille. Voilà, ils se réveillent le matin, il pleut. Ah, mais enfin, je reste à la maison parce qu'il pleut. Non, ayez des objectifs. Quand vous avez des objectifs clairs, eh bien, avec l'aide de Dieu, vous serez motivé. Vous venez de commencer une petite affaire, vous réveillez ce matin-là, il a beaucoup plu, au lieu de retourner dans votre lit, vous dites, non, j'ai rendez-vous avec telle ou telle autre personne, moi j'y vais. Quitte à arriver même mouillé, c'est le prix qu'il faut payer. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, on aime la facilité. Aujourd'hui, on aime l'assistanat. Et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Ainsi, beaucoup ont des projets, beaucoup ont des rêves. Mais parfois, leur objectif, leur rêve, leur semble trop élevé pour être vrai. À un certain moment, on se rend compte qu'on a placé peut-être la barre très haut, si bien que beaucoup, en voyant ça, ils font marche arrière et se cantonnent au niveau modeste. Ils disent non, je pense que c'est trop pour moi. Mais nous avons un Dieu illimité. Il n'y a que nous qui limitons Dieu. Eh bien, sachez une chose. Cette façon de faire, à un moment de se dire non, je crois que mes objectifs sont au-delà. Comment voulez-vous que je réussisse? Je suis ici à l'Équateur, je ne suis pas originaire, et donc je ne peux pas percer, et quelque part donc je dois réduire un peu la voilure de mes rêves. Parce que si j'étais originaire d'ici, ou si j'avais épousé une femme d'ici, je crois que j'aurais eu tel et tel autre objectif. Mais comme ce n'est pas le cas, eh bien je réduis. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas une bonne façon de croître. En effet, nous progressons lorsque nous parvenons à accomplir une tâche qui nous dépasse. Vous savez ça? Quand vous accomplissez une tâche qui vous dépasse, à ce moment-là, vous croissez. Mais si vous ne pouvez faire que des choses qui ne vous dépassent pas, vous ne grandirez jamais. Hein? Vous ne ferez jamais de progrès. Il faut vous lancer des défis. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on se dit, voilà, je dois faire ceci, et je dois tout faire pour atteindre mes objectifs, pour que mon rêve devienne une réalité. J'ai décidé de devenir un grand homme d'affaires. Eh bien, on ne le devient pas du jour au lendemain. On se dit, voilà, j'ai 25 ans, j'ai fait une étude de marché, j'ai vu que dans ce domaine-là, il y a moyen de percer. Dans ce coin où je vis, il n'y a pas assez de magasins où les gens doivent marcher, prendre le moto pour aller chercher la marchandise, etc. Qu'est-ce que moi je peux faire? Eh bien, au lieu qu'ils se déplacent, c'est moi qui vais aller vers eux. N'est-ce pas? Eh bien, avec le peu que j'ai, quels sont les produits prioritaires que je peux leur offrir? Avec une petite marge bénéficiaire. Ok, il y a ceci. Eh bien, moi je vais le faire. Vous commencez à aller, vous allez en ville. Dans un premier temps, vous n'avez pas suffisamment d'argent. Vous prenez le moto, la moto, vous arrivez là-bas, vous achetez un carton que vous placez entre le motard, le chauffeur de la moto et vous. Ce n'est pas facile, hein? Mais laissez-moi vous dire une chose, les grands commerçants ont commencé ainsi, hein? Parce qu'aujourd'hui, on voit tout en grand. Oui, ça vaut la peine d'acclamer, hein? Ceux qui ont fait les affaires peuvent vous le dire, ils ont commencé là. Je connais une sœur qui a commencé la vente des pagnes il y a plus de 40 ans. On marchait comme ça, petit à petit. Aujourd'hui, ses affaires ont prospéré, mais il a fallu de la persévérance. Sous le soleil, aller au marché, le grand marché de chez nous là, où c'est, en ville. Comment on appelle ça? Le grand marché, hein? Nino? Zando? Ok. Le grand Zando. Vous devez vendre, mais il faut beaucoup de patience, hein? Oui ou non? Vous devez rester. Maman, voilà la pagne Moziki. Voilà. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Ok, vous attendez. Une pagne Moziki. Moziki. Personne ne vous regarde. Mais si vous découragez à la troisième personne qui n'est pas attirée par votre cri, vous n'irez jamais loin. Quelquefois, quand je regarde tous ces gens qui vendent le long des routes, des femmes et tout ça, je me dis, elles ont beaucoup de foi. Parce que quand elles quittent leur maison, avec leur bassine remplie, je ne sais de quel produit, et qu'elles se mettent là, elles savent au moins une chose, qu'elles rentreront à la maison avec quelque chose. Voyez. Qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, elles ont un objectif. Si elles ne font pas ça, les enfants n'étudieraient pas. Maintenant, si vous dites, ah, ici à Kin fait toujours chaud. Oh, moi je vais d'un climat un peu... Si j'étais là-bas, j'aurais fait ceci. Ben, vous ne ferez rien. Il faut vous battre. Le soleil vous brûle. Très bien. Mais un jour viendra où, au lieu d'être à l'air libre, vous serez dans votre magasin. Alléluia. Derrière votre comptoir. Et puis le jour viendra où, au lieu d'être derrière le comptoir, vous engagerez des gens. Parce que vous irez dans votre deuxième magasin. Et puis le jour viendra où dans votre deuxième magasin, vous engagerez quelqu'un, vous irez dans le... Eh bien, c'est comme ça. On va crescendo de gloire en... Quelqu'un a dit ceci. J'aime beaucoup ce que la personne a dit. Si vous voulez voir des choses que vous n'avez jamais vues, écoutez-moi bien, si vous voulez voir des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre travail, etc., eh bien, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. C'est tout. Vous voulez voir des choses dans votre vie que vous n'avez jamais vues. Évidemment, des choses glorieuses, hein? Des choses merveilleuses. Alors, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait dans le cadre de votre activité? Eh bien, faites-le. Alors vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. En résumé, l'une des façons dont Dieu nous amène à déployer l'énergie, c'est de permettre que les épreuves nous frappent. Nous sommes parfois comme un cheval. Regardez le cavalier sur son cheval. Pour que le cheval prenne le départ, eh bien, les cavaliers ont ce qu'on appelle un éperon, c'est donc une tige métallique qui se trouve à leur talon. C'est comme ça, vous les voyez faire ça. Donc, quand cette tige pique les côtes du cheval, eh bien, il prend le départ. Voilà. Pour le pousser à aller encore plus loin, il y en a qui utilisent évidemment la cravache et tout ça, mais il y a l'éperon aussi, hein. Eh bien, quelquefois, et même trop souvent, nous sommes comme ce cheval. Il faut quelquefois quelque chose qui nous pique pour nous stimuler, pour aller de l'avant. C'est ici que l'histoire de Moab, et je termine par là, devient plus qu'intéressante. Le passage que nous avons lu montre ou décrit la condition de Moab. La Bible, nous l'avons lu, Moab était tranquille
dans sa jeunesse,
il avait oublié que la vie est faite de différentes phases. Il y a la phase embryonnaire, on est encore un embryon dans le sein maternel, et puis un bébé se forme, et puis au bout de 9 mois, le bébé quitte le sein maternel et entre dans le monde des vivants, n'est-ce pas? Et puis après le stade des bébés, d'abord on marche à 4 pattes, et puis un jour on marche à 2 pattes, et puis on entre dans l'adolescence, et puis c'est la jeunesse. Mais on n'est pas appelé à rester éternellement dans la jeunesse, n'est-ce pas? Et puis il y a la vie active, la vie adulte, etc. Mais Moab est resté tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre. Il n'est pas allé en déportation, c'est-à-dire en captivité. Et résultat, son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. Vous connaissez tous la lie, c'est ce dépôt qu'on observe dans les liquides fermentés, la bière ou le vin, dans le fond, vous avez toujours un dépôt, des résidus. C'est ce qu'on appelle la lie, et lui reposer sur sa lie. Donc nous voyons que ce passage décrit la condition de quelqu'un qui n'a pas changé ou qui ne change pas. Son goût et son odeur restent. Autrement dit, sa personnalité et son caractère sont demeurés ou demeurent identiques. Voilà. Or, nous avons besoin de changements. Et parler de changements, c'est accepter les différentes épreuves que le Seigneur permet dans notre vie. Tranquille depuis sa jeunesse, repose sur sa lie, pas vidé d'un vase dans un autre, donc pas connu le transvasement, pas connu la captivité, c'est-à-dire l'exil, les épreuves, et résultat, son goût est resté, c'est ça la conséquence. Quel goût? Un goût amer, un goût fade, aigre, acide. Quelle odeur? Une odeur nauséabonde, nous verrons. Une odeur pestilentielle, putride. Quelle image terrible d'une vie qui ne va pas de gloire en gloire. Car si on ne va pas de gloire en gloire, eh bien c'est le contraire qui se passe. On se retrouve, on se repose tranquille dans sa vie, sur la lie, et nous verrons. Et on n'avance plus. Mais ce que Dieu veut, que nous soyons versés d'un vase dans un autre. Oh, alléluia! Voilà. Et la ligne de notre vie ne peut pas partir en un seul transvasement. Non. D'un vase à un autre, d'un vase à un autre, ainsi de suite, notre vie va changer. Notre vie va être transformée. Et le goût et l'odeur de notre vie changeront également. Alléluia! Et ce, pour la gloire de notre Dieu. Acclamons son nom. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Aller de gloire en gloire, c'est accepter que les épreuves font partie de notre vie. C'est peut-être votre cas. Vous ne savez pas pourquoi cela vous arrive. Vous n'avez pas toujours besoin de le savoir ni de le comprendre. Mais dès lors que vous êtes avec le Seigneur, dès lors que votre vie est entre ses mains, sachez que c'est Dieu qui permet tout cela. Il veut vous transvaser d'un vase dans un autre. Alléluia. Vous êtes resté longtemps dans ces vases. Et avec le temps, la lie a fini par se déposer dans votre vase. Cette lie d'orgueil, de fierté, d'indignité, d'immoralité. Et vous ne pouvez pas rester comme ça. Dieu veut que vous changiez. Il veut vous transformer. Alors, il faut accepter la situation et dire simplement, Seigneur, merci pour cette épreuve qui est là devant moi. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Et te demande de nous aider, oh Dieu, à avoir une vie marquée par cette dynamique. Seigneur, oh Dieu, de gloire en gloire, d'avoir une vie qui va de Seigneur, crescendo, une vie qui accepte les épreuves, les difficultés, la résistance, comme faisant partie de ton plan pour notre vie. Alors aide-nous, au lieu de murmurer, au lieu de tourner de regards inquiets, donne-nous au contraire de lever nos yeux vers toi et de te louer pour cela, de dire Seigneur merci, je suis dans cette vallée, c'est toi qui m'as voulu dans cette vallée. Je suis dans ces déserts, alors que je n'ai rien fait de mal, eh bien c'est toi qui me veux dans ces déserts. Alors aide-moi, jusqu'à ce que tu me transfasses de ces déserts vers un autre vase. Oui, aide-nous, Seigneur. Merci pour tout, bénis également ce moment.